moment où l'Europe s'empêtre dans la crise énergétique, c'est significatif que de voir le Sénégal rejoindre une OPEP du gaz. Cela veut dire que les compagnies pétrolières occidentales, qui ont eu jusqu'ici le dernier mot dans ce secteur, auront désormais du mal à trouver de la noise à Dakar et à chercher à contrer son action énergétique qui, disons-le, inquiète depuis longtemps les Occidentaux, surtout depuis l'époque où un documentaire de la BBC a provoqué un mouvement de colère contre le président Sall et son frère. Alors, le ministre de l'Énergie est tout aussi pour que le pétrolier britannique BP convoite le méga gisement gazier sénégalais dit Grand Tortue. Depuis, l'exploitation continue à être reportée et les Occidentaux, qui sentent parfaitement que le Sénégal, une fois le gaz découvert, n'ira pas jouer leur jeu, cumulent les prétextes et mettent des bâtons dans les roues des projets d'investissement qu'ils ont arrachés à coups de complot et qu'ils ne veulent pas relâcher. Ainsi le Point, magazine mainstream made in France, écrit « Le Sénégal a récemment découvert des ressources pétrolières et gazières et nourrit grâce à elles l'espoir de richesse et d'industrialisation. Dakar ne veut en aucun cas y renoncer, malgré la pression des pays occidentaux et l'arrêt par ces derniers du financement des projets d'exploitation des énergies fossiles à l'étranger au nom de la lutte contre le réchauffement climatique. » Et le Point d'ajouter, le président sénégalais Macky Sall dénonce régulièrement une injustice et déploie une diplomatie active pour justifier le début de l'exploitation à partir de 2023. N'étant pas les seuls grands pollueurs, puisque n'étant pas industrialisés, il serait injuste de la recherche de solutions au réchauffement qu'on veuille interdire à l'Afrique d'utiliser les ressources naturelles qu'ils sont dans leur sous-sol, avait-il martelé en mai lors de la visite du chancelier allemand Olaf Scholz. Fin de citation. En effet, il est clair que le Sénégal est parfaitement conscient de l'ampleur de l'enjeu et que son choix de faire partie d'une organisation qui pourrait d'ici quelques temps, et surtout à la lumière de la guerre en Ukraine, devenir un véritable régulateur du marché de gaz, se veut géopolitique. Ce choix est d'autant plus géopolitique que l'Europe est désormais dans l'obligation de revoir sa copie de coopération gazière avec Dakar et donc desserrer les taux si elle veut avoir la primeur de l'exploitation gazière au Sénégal. En fait, comme le dit Le Point, bien inquiet, l'Allemagne ou encore la Pologne ont d'ores et déjà exprimé leur intérêt pour le gaz sénégalais. Cependant, il faudra certainement renégocier car les premières livraisons de gaz sénégalais d'ici toujours Le Point sont réservées pour le marché asiatique. N'est-ce pas une propension vers l'Est qui se confirme avec le choix de devenir l'observateur de l'OPEP du gaz? En effet, le Gas Exporting Countries Forum compte 11 pays membres à part entière, 5 en Afrique, 2 au Moyen-Orient, 3 en Amérique du Sud, en plus de la Russie, soit un pléthore de pays pro-Est, si ce n'est anti-Occident. Ces pays détiennent ensemble 72% des réserves mondiales prouvées du gaz naturel, 43% de la production commercialisée, 55% des exportations par gazoduc et 50% des exportations de gaz naturel liquéfié. Le Sénégal devrait rejoindre dès 2023 ce club de puissance gazière mondiale grâce notamment au projet Grand Tortue, ce gisement découvert à 60 km des côtes sénégalo-mauritaniennes qui recèle quelques 1400 milliards de mètres cubes de gaz. Si l'Occident tarde trop, il se fera remplacer. Des changements géostratégiques majeurs en cours, en 2022, ce n'est plus l'Europe qui sanctionne. Le Ghana et la Côte d'Ivoire ont boycotté le sommet qui se tient ce mercredi 26 octobre 2022 à Bruxelles sur le cacao. Les deux géants africains du cacao sont contre le fait que les multinationales du secteur refusent toujours d'augmenter une prime versée aux producteurs de cacao, explique-t-on aux médias. La rencontre des partenaires de la Fondation mondiale du cacao à Bruxelles se fera donc ce mercredi sans le Ghana et la Côte d'Ivoire. Les deux plus grands pays producteurs de cacao au monde ont boycotté ainsi ce sommet, expliquant leur décision par le refus des multinationales de ce secteur d'intégrer une prime permettant d'augmenter le prix d'achat aux planteurs. Une position saluée par les ONG qui luttent pour une amélioration du revenu des agriculteurs. Le directeur exécutif de l'ONG IDEF, Initiative pour le développement communautaire et la conservation de la forêt, Bakary Traoré, membre de la plateforme ivoirienne pour le cacao durable, a approuvé cette décision des autorités ghanéennes et ivoiriennes. Il dit « Quand vous regardez la production de chocolat, vous avez du lait, du cacao, du sucre. Le prix du sucre a augmenté. Le prix du lait a augmenté aussi. Mais le prix du cacao ne fait que baisser. Pourquoi ? Parce que le sucre et le lait sont produits dans les pays du Nord et qu'il faut aider les agriculteurs du Nord, mais ceux du Sud, donc de la Côte d'Ivoire et du Ghana, on s'en fout. Ce n'est pas notre problème. Eh bien nous, il faut que cela puisse changer. Non seulement c'est injuste, mais en plus, c'est à la limite de l'immoralité. » Le Ghana et la Côte d'Ivoire représentent à eux seuls 60% de la production mondiale du cacao. Sur l'échelle continentale, l'Afrique produit environ 71% du cacao consommé dans le monde, mais n'en transforme que 4%, selon le directeur exécutif de l'Organisation internationale du cacao, ICO, Jean-Marc Onga. Un contraste dans l'industrie du cacao que des économistes jugent comme un handicap pour le sort économique des pays producteurs. On a bien entendu parler de ce réseau de trafic du pétrole nigérian qui détourne chaque année des milliers de barils de pétrole nigérian. Le Nigeria pense-t-il diversifier ses ressources ? Le 24 octobre, le Nigeria, en partenariat avec la Banque africaine de développement, a officiellement lancé un programme de zone spéciale de transformation agro-industrielle, dit SAPS. Situé dans des zones rurales de Vieta et entièrement soutenu par des infrastructures numériques et logistiques, les SAPS visent à permettre aux entreprises agroalimentaires et agro-industrielles de s'y implanter afin de développer des chaînes de valeur pour certaines cultures jugées stratégiques comme maïs, manioc, riz, soya, cacao, volaille ou encore produits de l'élevage. Ces SAPS sont conjointement financés par la BAD à hauteur de 210 millions de dollars, la Banque islamique de développement BID, le Fonds international pour le développement agricole FIDA, ces deux derniers fournissant ensemble 310 millions de dollars, ainsi que le gouvernement nigérian qui injecte 18,05 millions de dollars. Le président de la BAD, Adesina, explique que ce projet placera les entreprises à proximité des agriculteurs, dont les bassins de production soutiendra la transformation et la création de valeur ajoutée, réduira les pertes alimentaires, permettra l'élargissement de l'espace budgétaire et l'émergence de chaînes de valeur alimentaire et agricole hautement compétitives. Alors que la balance commerciale du pays est déficitaire et que l'insécurité alimentaire y est persistante, la transformation agricole semble être la voie du développement la plus pérenne. De plus, et comme a tenu à le souligner le président de la BID, Mohamed Al-Jasser, le programme SAPS permettra entre autres de réduire l'inflation importée du prix des denrées alimentaires. Pour rappel, en 2022, d'après le Bureau national de statistiques, la hausse générale des prix des aliments au Nigeria était de 23,34%, son plus haut niveau depuis 17 ans.